Chapitre 18. Ce soir, Vincent a rendez-vous avec un mort. Dans le cimetière Saint-Vincent, au coin de la rue du même nom, face à la fameuse taverne autrefois connue sous le nom de Cabaret des Assassins. Certaines conjonctions ne peuvent qu'interpeller sur la véritable nature du hasard. Ici, le destin tragique de son père et la mémoire de l'homme qu'il a pris sous son aile, réunis autour de son prénom, comme les personnes qui avaient fait de lui un homme s'étaient croisées sur ce carrefour, où le pire côtoie le meilleur. Le sort déchaîne parfois ses pouvoirs, jusqu'à vous empêcher de fuir, vous ramenant sans cesse là où il vous a sculpté. Vincent arrive à hauteur du cabaret et de son animation tapageuse. Les jeunes ne soupçonnent jamais les drames vécus par ceux qui les ont précédés, à l'endroit même où ils croient au bonheur. Chaque fois qu'il passe à proximité de ce lieu, son cœur se serre. Un poison douloureux se répand dans ses veines. Les images, les sons lui reviennent. La violence aussi. Bien qu'il ne veuille surtout pas s'attarder, ses pas pèsent et ses épaules ploient sous le fardeau. Il rentre la tête, ses poings se contractent à s'en faire blanchir les articulations. Une colère intacte gronde en lui. Mais il ne peut pas s'arrêter à cela, il doit continuer son chemin. Certains obstacles ne peuvent pas être détruits, alors il faut les contourner, pour avancer encore. Il traverse la rue sans se retourner et longe l'arrière du petit cimetière. Pour y pénétrer, Vincent préfère sauter le mur une fois la nuit venue. Il n'a rien à se reprocher, mais il est plus tranquille. Le territoire des morts ne lui fait pas peur. Il y connaît beaucoup de monde. D'un coup d'œil, il s'assure que la rue est calme, puis escalade aisément l'enceinte tout en maintenant sa besace qui tinte. Il est là pour un anniversaire qu'il ne manquerait pour rien au monde. La date du 5 mai est sacrée. Retombant sur ses jambes, il se glisse entre les tombes, descend l'escalier de la terrasse supérieure. Vincent aurait aimé pouvoir y offrir une sépulture particulière à son père, où il aurait ensuite inhumé sa mère quand son tour était venu. Mais à l'époque, son frère et lui n'avaient même plus de quoi manger. Vincent en était réduit à voler pour nourrir son cadet et faisait semblant de se goinfrer pour que Pierre n'ait pas mauvaise conscience en avalant le peu qu'il récoltait. Plus de parents pour les protéger. Abandonnés dans un monde dont ils avaient brutalement découvert les lois en les subissant. Ils n'avaient assisté ni aux funérailles de leur père, parce que sa mère n'avait pas eu les moyens d'en payer, ni aux siennes, parce qu'ils n'avaient même pas été prévenus. Vincent croit savoir que leur dépouille se trouve dans une fosse commune du nouveau grand cimetière d'en bas. Lorsqu'il pense à ses parents, il a envie de croire qu'un paradis existe après la mort, parce que cela lui laisse l'espoir qu'il partage enfin un bonheur que cette terre leur a refusé. Quand il tente de se remémorer le visage de son père, ses traits sont de moins en moins précis. Seuls sont gravés en lui ses mots, son regard, ou ses rares gestes tendres. Vincent se glisse entre les sépultures. Même par cette nuit sans lune, il sait où il va. Il se repère aux imposants mausolées de l'allée principale. Exactement comme pour les halls des hôtels particuliers, chacun des monuments funéraires porte l'image que le défunt ou sa famille veulent donner d'eux-mêmes. L'orgueil résiste à la mort, le temps que durent les édifices. Le vent s'est levé. Le cimetière est sombre et désert. Au même moment, par-delà la butte, les festivités de l'inauguration officielle de l'exposition universelle battent leur plein. Vincent ne pourra rien en entendre, ni même apercevoir la moindre lueur du feu d'artifice dans le ciel. Au nom du passé, il est seul entre les tombes, pendant que tout ce que le monde compte de célébrités fête joyeusement l'avenir. Il repère rapidement le caveau aussi haut qu'étroit de la puissante famille Picard. Le défunt qu'il vient visiter ce soir est inhumé juste sur la gauche, sous une dalle bien plus modeste. Parvenu devant la sépulture, Vincent s'incline. Étienne Bégel, 1830-1880. Sur la ligne au-dessous, il est précisé « Horloger de génie ». même si cette mention lui a coûté beaucoup d'argent, Vincent a tenu à la faire graver sur la tombe de son mentor. Ce soir, c'est l'anniversaire du jour où M. Bégel l'a embauché comme apprenti. Même s'il n'en parle jamais, Vincent y pense à chaque nouvelle commande. Il n'oublie pas ceux qui lui ont ouvert leurs portes. Ils ne sont pas si nombreux. Étrangement, il n'évoque jamais son ancien patron, ni avec ses compagnons, ni même avec Pierre. Il n'aime pas exposer ses sentiments. Il aura fallu qu'une quasi-inconnue lui pose une question personnelle pour qu'il en parle, pas plus tard qu'hier. Encore un hasard. Monsieur Bégel plaisantait souvent à ce sujet, prétendant que les coïncidences sont les liens que le grand horloger nous attache pour nous rappeler à notre propre histoire. Un craquement sec derrière lui interpelle Vincent. Il se retourne aussitôt et scrute la nuit, ne distinguant que les silhouettes des stèles. Tout est immobile. Alors qu'il se rassure, il entend un nouveau bruit. Henri, c'est toi ? Approche, n'aie pas peur, c'est moi. Tu es venu voir s'il y avait du courrier ? Aucune réponse. Il attend un moment et finit par se retourner vers la tombe. Ce n'est sans doute que l'un des nombreux chats qui fréquentent ce lieu la nuit. De sa besace, il extrait deux gobelets en verre et une bouteille de vin rouge. Il s'accroupit devant la pierre tombale et verse à boire dans chacun des récipients. Levant le sien, il déclare « Je vous souhaite bon anniversaire, Monsieur Bégel. Que le jour où je vous ai rencontré soit béni. Merci de m'avoir donné ma chance. Je me rappelle chaque jour ce que vous avez fait pour moi. » Il trinque en cognant légèrement son verre contre le nom gravé et avale une gorgée. « Il y a pas mal de neuf depuis ma dernière visite, » reprend-il. « Les affaires marchent bien, même s'il faut faire attention. Nous sommes tout de même cinq à vivre sur notre activité. » Il parle aussi naturellement que si son interlocuteur se tenait devant lui. Les clients sont de plus en plus étranges. Des hommes riches, des politiques. De moins en moins de choses à protéger et de plus en plus à cacher. L'époque prend un drôle de tour. Parfois, même si vous me manquez, je me réjouis que vous ne soyez plus là pour voir la façon dont les choses se pratiquent aujourd'hui. Moins d'honneur, plus d'intérêt. Peut-être est-ce moi qui vieillis. Sinon, Pierre va bien, Henri aussi. Le clou sera bientôt aussi grand que moi. J'aurais aimé que vous le connaissiez. Il vous aurait sans doute rappelé le jeune homme que j'étais. Conrad et Eustasio font de l'excellent travail. Ce soir, notre Italien est sorti, au bras de sa comtesse. Il célèbre l'inauguration de l'exposition. Henri crevait d'envie d'y aller, mais je lui ai demandé de rester avec Gabriel, chez nous. Ah oui, Gabriel. Il faut vous dire que la maison n'est plus exclusivement peuplée d'hommes. Nous hébergeons une jeune femme, fort belle, soit dit en passant, qui a de sérieux ennuis avec une bande peu recommandable. Je crois que Pierre a un faible pour elle. Un nouveau bruit suspect l'interrompt. Cette fois, il ne peut plus croire qu'il s'agisse d'un chat, ni même d'un rat. Sur la pointe des pieds, il s'aventure dans l'allée. Tous ses sens sont en alerte. Il a déplié son couteau, prêt à tout. Il patrouille ainsi un bon moment entre les sépultures voisines, en vain. Peut-être a-t-il mis en fuite un rôdeur. Lorsqu'il revient, le verre d'Étienne Bégel n'a pas bougé. Mais une lettre cachetée a été déposé juste à côté. Un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Il regarde tout autour de lui, mais ne distingue toujours rien. Les mains tremblantes, il ouvre le pli. Il fait trop sombre pour lire les quelques lignes. Celui qui a déposé ce message est encore forcément dans les parages. Peut-être même est-il en train de l'observer. Peut-être a-t-il entendu ce qu'il confiait à son maître. Un genou à terre, il pose respectueusement sa main sur la pierre tombale pour saluer celui qu'il était venu voir ce soir. À voix basse, il murmure « Pardon, Monsieur Bégel, mais je dois y aller. » Vincent a vu juste. Il est observé. Même si ce n'est pas l'homme au lacet de cuir qui a déposé la missive, il est là, tout proche.